Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Ça fait plaisir d'être là, de vous avoir vu en bas tantôt, les gens qui sont venus en chair et en os pour se rassembler. Et salut à vous si vous êtes plus loin, si vous suivez ça sur Internet. Quelle joie qu'on peut entendre la parole du Dieu vivant dans sa parole. Et quelle joie de vivre le déconfinement progressif, n'est-ce pas? Après des mois de confinement, de pouvoir sortir et voir quelques personnes par semaine. Peut-être que vous avez pu revoir certains membres de votre famille. C'est vraiment un sujet de joie, n'est-ce pas? Et en même temps, nous avons un peu de beau temps. Même durant le confinement, il faisait très beau. On avait du mal à se rappeler parfois qu'il y avait un virus meurtrier qui se baladait partout dans le monde. Je me souviens d'avoir été courir dans les bois, pas loin de chez nous à Louvain-la-Neuve. Et il faisait remarquablement beau. Et pendant quelques instants, j'avais tout à fait oublié que le monde passait par des moments très pénibles. J'avais l'impression que tout allait bien dans le monde. Avez-vous déjà vécu de tels moments vous aussi? Quand vous vous dites, mais tout va bien dans le monde. Et puis quelque chose arrive pour vous rappeler que, en fait, non, tout ne tourne pas rond dans le monde. Car en réfléchissant un peu, nous pouvons tous constater que le monde va mal. La maladie, l'injustice, le racisme, la violence, l'égoïsme, la redéfinition de la réalité, tout ce qui est transgenre, etc. Le monde va très, très mal. Et les gens n'ont pas de solution à proposer, pas vraiment de remède. On a beau manifester, on pourrait changer de loi, mais est-ce que cela apportera un changement définitif vers le mieux, vers un meilleur monde? C'est un peu comme si tout le monde marchait dans les ténèbres et n'arrive pas à voir clair. Je me souviens de l'université où Lizzie, mon épouse, et moi, nous avons fait nos études. C'était une ville très belle. J'étais tout jeune. La première année, j'avais un logement universitaire. Mon code, si vous voulez, c'était dans un château. Je ne l'invente pas. Mon adresse était Robbie Bellis, château de Durham. Et le château était situé en haut d'une colline au centre-ville, un château médiéval, transformé en logement pour étudiants. Et un soir, je rentrais chez moi après avoir vu un copain et je voulais prendre un raccourci. Et justement, il y en avait un excellent qui raccourcissait de moitié le temps de mon trajet. Le problème, c'est que ce chemin n'était pas du tout éclairé. Pas le moindre éclairage public. Et à l'heure où je voulais emprunter le chemin, il faisait noir comme dans un four. Et pour compliquer la situation, je m'étais blessé en jouant au foot et je marchais avec des béquilles. Et donc j'étais là avec mes béquilles, j'essayais d'emprunter ce chemin. Il y avait des marches qu'il fallait monter, mais je ne savais pas où elles se trouvaient. Je ne voyais rien, aucune idée où placer mes béquilles pour faire un pas et marcher, monter ces marches. Ce qui devait arriver, arriva. Je suis tombé et je me suis rendu compte que ce n'était peut-être pas la meilleure idée d'avoir emprunté ce chemin-là, dans le noir et sans aucun éclairage, et avec des béquilles en plus. J'ai alors fait demi-tour et pris la route principale vers le château qui, elle, était éclairée. Cette image m'est restée gravée dans l'esprit et je trouve qu'elle décrit assez bien la situation dans le monde actuellement. Les gens marchent, ils vivent leur vie sans vraiment savoir quel est le but de leur vie, sans savoir quel est le vrai problème qui est à la source de tous les problèmes dans le monde. Ils sont en train de vivre pour des choses qui ne vont pas durer. Nous vivons dans un monde ténébreux. Mais qu'est-ce que nous pouvons apporter à un tel monde en tant que chrétiens? Nous pouvons tomber dans le piège de penser que nos croyances n'ont pas grand-chose à dire à notre monde. Nous commençons même à croire ce que disent les médias, que c'est nous qui sommes loin du compte, démodés, et que ce que nous croyons a très peu de pertinence pour le monde actuel. Chers amis, ceci ne pourrait être plus loin de la réalité. Nous allons méditer ce matin une phrase prononcée par Jésus-Christ. Et à travers cette phrase, nous verrons que loin de manquer de pertinence pour notre monde, Jésus est le seul qui peut offrir une solution réelle et durable à notre monde dans le besoin. Comme Steve a dit, nous parcourons les phrases que Jésus a prononcées qui commencent par « Je suis ». Aujourd'hui, nous verrons en Jean chapitre 8, au verset 12, « Je suis la lumière du monde ». Et à travers cette phrase, nous envoie trois choses. Qui est Jésus? Qu'est-ce que Jésus nous offre? Et comment bénéficier de ce qu'il nous offre? Mais prions ensemble avant d'aller plus loin. Notre Père, nous te louons pour ta parole. Merci parce que par elle, tu nous parles avec puissance et autorité. Merci parce que tu nous parles de Jésus-Christ, le seul espoir pour notre monde dans les ténèbres. Parle-nous maintenant, fais-nous du bien. Nous te prions par ta parole, au nom de Jésus. Amen. Mais relisons ce verset de Jean 8, le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Pour nous placer un peu dans le contexte de ce passage, nous nous trouvons dans l'évangile de Jean. C'est un récit de la vie et de la mort de Jésus, du ministère de Jésus, écrit par l'un de ses disciples, Jean, un témoin oculaire. Et dans cette section de l'évangile, au chapitre 7 et 8, Jésus se trouve à Jérusalem, lors d'une grande fête des Juifs, la fête des huttes ou des tabernacles. Et Jésus saisit cette occasion pour s'adresser aux foules. Et tout son discours tourne autour de qui il est et ce qu'il offre. Et il poursuit au chapitre 8, verset 12, car les premiers 11 versets du chapitre 8 ne se trouvent pas dans les manuscrits les plus primitifs de l'évangile de Jean que nous possédons. Et donc, de toute probabilité, ces versets ne font pas partie de l'évangile de Jean. Donc, en réalité, le récit saute du chapitre 7 et les versets 45 à 52, où les pharisiens réprimandent les gardes qu'ils avaient envoyés pour arrêter Jésus, parce que ceux-ci commençaient à être eux aussi impressionnés par son enseignement. Et puis Nicodème dit qu'il ne faut pas juger un homme avant de l'avoir écouté et de comprendre ce qu'il fait. Donc, de nouveau, deux questions. Qui est cet homme Jésus? Et qu'est-ce qu'il fait? Quelle est sa mission? Sont à l'ordre du jour. Et puis on arrive au verset 12 du chapitre 8. Jésus leur parle de nouveau et dit, « Moi, je suis la lumière du monde. » Voyons donc notre première question. Notre première question, qui est Jésus? Notre premier point, qui est Jésus? De nos jours, il y a une véritable panoplie d'opinions sur l'identité de Jésus. Pour certains, il était un prophète. Pour d'autres, il était un personnage religieux comme les autres. Et pour d'autres encore, il était un simple enseignant juif qui se trouve à la base de beaucoup de mythes qui sont venus s'ajouter à son sujet après sa vie. Avez-vous une idée de l'identité de Jésus, de qui il était? Tout comme maintenant, à l'époque de Jésus, il y avait aussi beaucoup d'opinions différentes concernant son identité. On voit cela au chapitre 7, si vous avez la Bible sous les yeux. Chapitre 7 et le verset 40. Des gens de la foule, après avoir entendu ces paroles, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète ». D'autres disaient « Celui-ci est le Christ ». Et d'autres disaient, « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ?» Et au verset 43, voici comment Jean résume la situation. « Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. » Et c'est dans ce contexte que Jésus prend la parole. Il veut annoncer clairement et ouvertement qui il est. Nous le voyons au début du verset 12. « Moi, je suis la lumière du monde. » Jésus aurait pu simplement se contenter de dire « Je suis la lumière du monde ». Mais il a choisi de dire « Moi, je suis ». Cette phrase, comme Steve nous a expliqué la semaine passée, est tirée de l'Ancien Testament et du moment extraordinaire quand Dieu révèle son nom à Moïse. Moïse demande en Exode 3, en parlant de Dieu, « S'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je ? » Il demande à Dieu son nom, qui il est. Et voici comment Dieu lui répond en Exode. « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites, « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Le nom de Dieu, c'est « Je suis ». Et ici, en Jean 8, Jésus reprend ce même nom divin, pas moins de 3 fois. Ici, au verset 12, « Moi, je suis la lumière du monde ». Et à la fin du verset 24 aussi, « Si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés ». Et de nouveau, au verset 58, à la fin du chapitre, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis ». Qu'est-ce qu'il est en train de dire en reprenant le nom divin pour lui-même? Qu'il n'est rien de moins que Dieu venu sur terre. Le Dieu sauveur de l'Exode. Ben, voyons la réaction immédiate de ceux qui l'ont entendu dire cela au verset 59. Là-dessus, ils priaient des pierres pour les lui jeter. Ils voulaient le tuer parce qu'ils pensaient qu'il blasphémait en disant qu'il était Dieu parmi eux, pleinement Dieu et pleinement homme en une seule personne. Jésus est Dieu. Mais Jésus se décrit aussi ici comme la lumière du monde. Il est venu dans le monde apporter la lumière. Ça fait tellement de plaisir, n'est-ce pas, de retrouver les mois d'été, des jours ensoleillés, après l'hiver où il fait noir tout le temps. J'exagère un peu. Mais je pense qu'on préfère tous la lumière aux ténèbres, n'est-ce pas? Ça commence tôt, les enfants qui ont peur du noir. Je me souviens, lorsque nous étions à Disneyland à Paris, j'avais pensé que ce serait une bonne idée de prendre Lola, ma fille de 5 ans à l'époque, avec moi sur l'attraction des Pirates des Caraïbes. Je ne sais pas si vous connaissez cette attraction-là, mais avant même de démarrer, il faut faire la file dans des grottes décorées de têtes de mort et d'autres trucs liés aux pirates. Et en plus, il faisait fort sombre à l'intérieur. Et j'ai dû chanter un chant chrétien à tue-tête dans l'oreille de Lola tout au long de l'attraction pour la calmer. Elle qui avait forcément très peur du noir. Mais même les adultes qui se trouvent dans le noir sont soulagés quand quelqu'un allume la lumière. Quand on allume une bougie lorsqu'il y a une coupure d'électricité, je me souviens de cela de mon enfance, avant l'époque des smartphones et leurs lampes. La lumière est vraiment la bienvenue lorsque nous sommes dans les ténèbres. Et dans la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, le salut et la délivrance que Dieu allait apporter à son peuple étaient souvent liés à la lumière. On peut penser à la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, où Dieu les a guidés la nuit par une colonne de feu. La lumière du feu symbolisait la présence de Dieu parmi son peuple. De même, dans le tabernacle, la tente que Dieu avait donnée au peuple d'Israël pour qu'il y réside symboliquement parmi son peuple, l'huile du chandelier devait brûler continuellement en présence de l'Éternel. Là où Dieu est, se trouve la lumière. Et de même, le prophète Ésaïe dépeint le salut qu'apportera Dieu comme une lumière. Nous lisons parfois juste avant la fête de Noël le texte d'Ésaïe 9. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Dieu visitera son peuple qui marche dans les ténèbres. Il leur apportera la lumière. Il leur apportera la délivrance. Car dans l'Évangile de Jean, dans la Bible tout entière, les ténèbres sont fortement liées avec le monde qui est en rébellion contre Dieu. J'ai l'impression que les gens pensent instinctivement que les êtres humains sont bons par nature et que c'est peut-être l'éducation ou la société qui les corrompt par la suite. C'est ce qu'a pensé Jean-Jacques Rousseau. Mais il y en a qui reconnaissent qu'une telle idée ne correspond nullement à la réalité. Je parlais de l'être humain à un ami du club de course à pied l'autre jour. Il m'a dit, mais Rousseau n'avait pas raison. Et nous le voyons bien, il y a quelque chose qui ne va pas chez l'homme. L'être humain est égoïste. Il exploite les autres pour son propre gain. Et si l'homme est égoïste, la raison ultime de cela, selon l'Évangile de Jean, selon la Bible, c'est que l'homme s'est rebellé contre Dieu son Créateur. Il s'est établi lui-même comme le Dieu de son propre univers. Tout notre égoïsme sort et découle de cela. Ce qui explique pourquoi nous sommes dans les ténèbres. Et dans l'Ancien Testament, Dieu promettait l'arrivée de la lumière pour apporter la délivrance et le pardon à un peuple rebelle. Israël devait être la lumière des nations. Mais Israël a échoué lamentablement à sa tâche. Et donc Dieu a annoncé la venue d'un serviteur qui allait faire ce qu'Israël n'a pas pu faire. Et dans le livre d'Ésaïe, voici ce que Dieu dit concernant son serviteur. « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour la justice et je te prends par la main. Je te protège et je t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot les habitants des ténèbres. » Le serviteur, Jésus-Christ, va être la lumière pour les nations, pour ouvrir les yeux aveugles. Et donc ce n'est pas surprenant qu'après notre récit en Jean 8, on trouve Jean 9, là où il y a Jésus qui guérit l'homme aveugle. Jésus est venu comme serviteur pour ouvrir les yeux aveugles, pour faire sortir le peuple des ténèbres. Et on arrive à la fin des prophètes avec le prophète Zacharie. Et dans le dernier chapitre, le chapitre 14, nous avons une vision remarquable d'une fête des tabernacles à venir, quand il y aura de l'eau et de la lumière en abondance, ainsi que le salut pour toutes les nations. Et ça, c'est très frappant, car rappelons-nous, dans les chapitres 7 à 8 de l'Évangile de Jean, Jésus se trouve à Jérusalem lors de la fête des tabernacles. Et juste au début de notre lecture, Jean 7, verset 37, nous voyons Jésus qui s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Jean ajoute, il dit cela de l'Esprit, qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Jésus promet de l'eau en abondance. Et ensuite, au chapitre 8, verset 12, il dit « Je suis la lumière du monde, lumière et eau, comme avait prophétisé Zacharie lors d'une fête des tabernacles. » Cela veut dire le salut pour toutes les nations. Qui est Jésus? Dieu lui-même. Il est la lumière du monde. Il est celui qui représente la présence de Dieu parmi nous. Il est celui qui apporte la délivrance. Et Jésus offre la lumière à ceux qui marchent dans les ténèbres. Et on se dit, mais qui ne voudrait pas de cela? Tout le monde aimerait ça, non? Mais c'est un grand choc dans l'évangile de Jean. Mais lorsque la lumière vient dans le monde, la réaction de du monde n'est pas top. On lit au chapitre 1 ce que Steve nous a lu tantôt. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Waouh! Dieu lui-même vient dans le monde en offrant à toutes ses créatures la lumière et une relation avec lui. Et comment est-ce que l'humanité réagit à cela? Non, merci. C'était bien mieux avant. Pas intéressé, on ne veut pas de toi. Il est facile de penser que nous sommes neutres par rapport à Jésus, même bien disposés envers lui par nature. C'est ça ce qu'on entend souvent, n'est-ce pas? Le christianisme, non merci, la Bible, non merci, mais Jésus, génial! Mais ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas bien disposés envers Jésus. Jean 3 va plus loin et explique pourquoi par nature nous rejetons tous Jésus. Jésus dit, voici le jugement, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient réprouvées ou révélées. Jésus dit que nous aimons les ténèbres plus que la lumière. Si nous avons le choix entre rester dans les ténèbres et venir à la lumière, nous préférons les ténèbres. Il nous offre la lumière, mais nous préférons avancer à l'aveuglette, aller à tâtons. comme j'ai fait avec mes béquilles dans cette ruelle sombre. Pourquoi est-ce qu'on pourrait préférer les ténèbres? La logique de Jésus est frappante. Il dit que c'est parce que nos œuvres sont mauvaises, que nous détestons la lumière, Jésus, et nous ne venons pas à elle de peur que nos œuvres soient révélées. C'est comme si Jésus, ce que Jésus fait, c'est comme s'il allume un énorme phare qui pénètre dans chaque recoin caché de notre vie. Tout est mis à nu devant lui. Venir à Jésus pour recevoir ce qu'il nous offre, c'est dire haut et fort à Dieu et à tous que nos œuvres sont mauvaises. Pas parce que nous sommes le mal incarné à tout moment, mais que nos œuvres sont caractérisées par le mal. Par nature, nous ne voulons pas admettre que nous nous sommes trompés dans notre façon de vivre. Nous voulons faire semblant, donner l'impression que nous sommes des gens bien. Jésus est la lumière du monde. Il offre la lumière, la délivrance. Mais ce qui est choquant, c'est que nous tous, par nature, nous préférons décliner son offre et rester dans les ténèbres. Mais voyons maintenant ce que Jésus nous offre pour être persuadés que cela en vaut la peine de venir à lui et de révéler à tous que nos œuvres sont mauvaises. Et ensuite, nous verrons comment nous pouvons bénéficier de ce qu'il nous offre. Qu'est-ce que Jésus nous offre? Jésus dit en Jean 8, verset 12, « Moi, je suis la lumière de vie du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus nous offre la possibilité extraordinaire de ne plus marcher dans les ténèbres. Dans ce chapitre 8, Jésus décrit l'être humain comme un esclave du péché. Nous pensons que nous sommes libres sans Dieu, mais Dieu dit que c'est exactement le contraire. Nous sommes incapables de résister à nos désirs innés qui déshonorent Dieu. Et Jésus nous décrit non comme des enfants de Dieu, mais comme des enfants du diable. Et il dit au verset 24 que nous allons mourir dans notre péché. Jésus nous offre un autre chemin, une alternative. Il nous permet de sortir de cette vie asservie à la rébellion contre Dieu et l'égoïsme. Jésus nous offre la liberté et nous affirme qu'il nous offre la lumière de la vie. Si Jésus est la lumière du monde, quelle est la lumière qu'il nous offre? C'est la vie, la lumière de la vie. Et cette offre de vie répond à notre plus grand besoin. Notre plus grand problème, nous allons mourir dans notre péché, dit Jésus, et faire face à Dieu, notre juge. La condamnation éternelle s'ensuivra. Mais Jésus nous offre la lumière de la vie, il nous offre une relation restaurée avec Dieu son Père, de le connaître dès maintenant et au-delà de la mort, pour toujours. Jésus nous a donné un avant-goût de ce à quoi va ressembler la vie qu'il nous offre, dans son tout premier miracle dans cet évangile. Il a transformé l'eau en vin pour symboliser l'abondance du banquet éternel qu'il nous offre. Comme image pour décrire la vie éternelle, il a choisi une fête. Ça donne envie, n'est-ce pas? Et comment Jésus peut-il nous donner accès à cette fête? Comment nous donnera-t-il la lumière? Mais au chapitre 8, verset 20, nous voyons que personne n'arrêta Jésus pendant la fête des tabernacles, non parce que les autorités étaient incompétentes, mais parce que, verset 20, son heure n'était pas encore venue. Et au verset 28, Jésus dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Voici deux thèmes majeurs dans l'évangile de Jean. L'heure de Jésus, et le moment quand le Fils de l'homme, Jésus, sera élevé. Jésus est venu dans le monde avec une mission précise qu'il allait accomplir. Au moment de son choix, l'heure de sa mort. Car c'est en mourant sur la croix qu'il a été élevé. Lorsque la lumière du monde semblait être éteinte, il a vaincu les ténèbres. notre rébellion contre Dieu. Il a acquis notre pardon par son sang versé sur la croix. Et ainsi, on ne marche plus dans les ténèbres, ne savant pas où on va, destiné aux ténèbres éternelles du jugement de Dieu. Jésus, la lumière du monde, nous offre la lumière de la vie par sa mort sur la croix. Mais comment bénéficier de l'offre de Jésus? Comment bénéficier de ce que Jésus nous offre? Jésus dit dans ce verset, « Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Jésus offre à toute personne qui est prête à le suivre la vie. Il est assez courant de penser que Jésus accepte tout le monde, que s'il y a un paradis, on y ira tous. Mais Jésus n'est pas de cet avis-là. Il dit « Seuls ceux qui le suivent auront la vie avec lui. » Mais en même temps, il offre la vie à toute personne qui veut le suivre, peu importe son arrière-plan, son éducation religieuse, les secrets cachés de la personne. Jésus offre à tous la vie si nous le suivons. C'est l'appel à devenir son disciple. C'est l'appel que Jésus a lancé au chapitre 1, « Suis-moi ». C'est l'appel qu'il a relancé à Pierre à la fin de l'évangile de Jean. « Toi, suis-moi ». C'est l'appel à devenir disciple de Jésus, avoir une foi authentique, se confier dans ce que Jésus a fait et le prendre sur parole. On voit tout au long de ce chapitre 8 tout plein de gens qui doutent de la parole de Jésus, qui remettent en cause son autorité. La foi authentique croit tout ce que dit Jésus, car il vient de Dieu, et ce qu'il dit de lui-même est vrai. Le verset 14 du chapitre 8 résume bien les versets 12 à 30. Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. » Mais vous, vous ne savez pas d'où je viens, ni où je vais. Celui qui suit Jésus croit ce qu'il dit. Celui qui suit Jésus vient à lui en confessant toutes ses mauvaises œuvres. Et il se détourne de son ancienne vie d'obscurité et le suit dans la lumière. Quelle offre extraordinaire, n'est-ce pas? Pour celui qui suit Jésus, il y aura la lumière de la vie. La vie éternelle avec Dieu. Peut-être qu'en écoutant ceci, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas en train de suivre Jésus. Vous le regardez de loin, peut-être. Vous vous intéressez à lui en tant qu'enseignant de morale. Mais venez à lui en tant que sauveur pour qu'il vous pardonne toutes vos fautes. Vous ne l'avez jamais fait. Voyez-vous ce que Jésus offre? Il offre ce que nous désirons tous au plus profond de nous. De ne plus marcher dans les ténèbres, de ne plus être si égoïste, de ne pas devoir craindre la mort et ce qui vient après. Il vous offre la vie aujourd'hui. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est venir à lui en lui demandant pardon, en acceptant la vie qu'il vous offre. Quand nous voyons dans ce verset à quel point Jésus est plus grand que ce que nous avons pensé jusqu'à présent. Même si nous sommes déjà chrétiens, nous risquons de penser que nos croyances n'ont rien de très pertinent pour le monde actuel. Que cela nous fait peut-être du bien de croire en Jésus, mais que franchement, cela n'a pas grand-chose à voir avec nos contemporains, nos amis, membres de la famille, collègues et voisins. Comme si Jésus était juste venu me donner un petit plus dans ma vie. Une chose que d'autres peuvent trouver ailleurs, le sport, les relations, les loisirs, le life coaching ou la spiritualité. Non, dans ce verset, nous voyons que pour notre monde dans les ténèbres, Jésus constitue le seul espoir. Jésus est le seul qui puisse nous sauver de ce monde futile, plongé dans les ténèbres. Êtes-vous convaincu de cela? Voyez-vous à quel point Jésus représente le seul espoir, non seulement pour vous, mais aussi pour vos proches et votre entourage. Pour sortir la société du cycle vicieux de violence, d'injustice, de racisme, d'immoralité et de cruauté, que faut-il? Mais plutôt, qui faut-il? Jésus, la lumière du monde. Tous ceux qui le suivent ne marcheront point dans les ténèbres, mais ils auront la lumière de la vie. Quel encouragement si nous suivons déjà Jésus. Quelle image glorieuse de notre salut, n'est-ce pas, la lumière. Quelle offre à ne pas refuser si vous ne l'avez pas encore acceptée. Oui, la lumière révélera notre rébellion contre Dieu, mais si nous suivons Jésus, la lumière du monde, nous suivons le seul qui peut apporter la vie à ceux qui marchent dans les ténèbres. Gloire à Dieu pour Jésus, la lumière du monde. Prions ensemble. Notre Père, combien nous te louons pour Jésus, la lumière du monde. Nous te louons pour sa venue dans ce monde de ténèbres, mais nous reconnaissons que, par nature, nous le rejetons, parce que nous ne voulons pas que nos œuvres mauvaises soient révélées. Mais merci, parce que si nous venons à Jésus, non seulement il révèle nos mauvaises œuvres, mais il pardonne toutes nos œuvres mauvaises par sa mort sur la croix. Il permet à ce qu'on ne marche plus dans les ténèbres, mais qu'on ait la lumière de la vie. Quelle grâce! Donne-nous de saisir cela pour nous-mêmes et de saisir à quel point Jésus constitue le seul espoir pour ce monde plongé dans les ténèbres. Nous te prions en son nom. Amen.